VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, 11h en travail du Vassel, 13h à Bujumbura, bonjour à tous. Au Burundi, le régime du président Nkurunziza a montré pour la première fois depuis le début de la crise en avril 2015 quelques signes d'ouverture. D'après l'AFP, Bujumbura a entrepris de discuter, bien que dans la plus grande discrétion, avec la plateforme d'opposition Sénared, affaiblie par les défections. Après avoir obstinément refusé pendant 4 ans de s'asseoir à la même table que le Sénared, même sous l'égide de la communauté internationale, le pouvoir burundais a accueilli samedi le secrétaire exécutif de ce mouvement, rassemblant des opposants exilés en raison de la crise née de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé. Toujours selon l'AFP, une délégation du Sénared a rencontré à Nairobi, au Kenya, une délégation du pouvoir burundais dirigée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Edouard Nduwimana, un proche du président Nkurunziza le 30 août et le 1er septembre dernier. 3 laboratoires de dépistage du virus Ebola affrétés par les fondations Mérieux et Présence vont décoller aujourd'hui de la France avec pour destination la République démocratique du Congo. Ces laboratoires vont renforcer les mesures sur le terrain pour contenir la maladie. Herman Ngo.
Les deux fondations ont affrété un avion Antonov 124 qui transportera jusqu'à Goma 2 laboratoires conteneurs prêts à l'emploi, un de type P3 et l'autre de type P2, et un laboratoire mobile installé dans un véhicule 4x4 ainsi qu'un conteneur frigorifique. Cet enjeu de santé publique a rappelé le fondateur du groupe pharmaceutique du même nom, Alain Mérieux, qui dit avoir répondu à une demande officielle du gouvernement par la personne du professeur Mouyembe chargé de la lutte contre Ebola. Ces laboratoires vont apporter une sécurité biologique beaucoup plus grande, a insisté M. Mérieux, rappelant que la RDC est un pays immense où le seul laboratoire P3 est à Kinshasa. Ces laboratoires conteneurs pourront ainsi diagnostiquer entre 180 et 200 prélèvements par jour, a assuré le directeur diagnostic et système de la Fondation Mérieux, le Dr François-Xavier Babin. L'Ebola a fait plus de 2100 morts en RDC depuis la déclaration officielle de l'épidémie le 1er août 2018.
Économie au Nigeria, le président Muhammadu Buhari, réélu en février, a présenté hier une proposition de budget record pour 2020 au Parlement dans un contexte économique qui reste difficile pour le géant pétrolier d'Afrique de l'Ouest. M. Buhari a présenté un budget historique de 10,33 billions de naira, soit 33,8 milliards de dollars selon le taux de change officiel de 305 naira dollars, en hausse donc par rapport au budget de 8,92 billions de naira approuvé pour l'année 2019. L'économie du pays le plus peuplé d'Afrique, avec 190 millions d'habitants, a traversé une grave récession économique en 2016 et 2017, conduisant à des millions de pertes d'emplois et une forte inflation qui a aggravé le niveau de pauvreté générale au Nigeria. L'un des deux candidats au second tour de la présidentielle en Tunisie, Nabil Karoui, a demandé mardi à la justice de repousser le scrutin prévu le 13 octobre jusqu'à ce qu'il puisse sortir de prison pour faire campagne. Homme d'affaires et des médias, M. Karoui a été arrêté et incarcéré pour le blanchiment d'argent le 23 août, mais il a obtenu 15,58% des voix au premier tour le 15 septembre, ce qui lui a permis de se qualifier pour le second tour. Plusieurs demandes de remise en liberté ont été rejetées. La dernière en date, c'était le 1er octobre. Le premier ministre égyptien Mostafa Madbouly a félicité la police pour son travail lors des manifestations antigouvernementales de petite ampleur en septembre devant le Parlement et promis la fermeté face au risque de chaos. Des manifestations contre le président Abdel Fattah al-Sissi ont eu lieu dans la capitale et dans d'autres villes d'Égypte. C'était le 20 septembre, rapidement dispersé par la police. Les négociations sur le Brexit entre Londres et les Européens semblent au bord de la rupture, à un peu plus de 3 semaines de la date prévue, Bruxelles accusant le Premier ministre Boris Johnson de jouer avec l'avenir de l'Europe. Les Européens ont donné jusqu'à la fin de la semaine au gouvernement britannique pour leur présenter un compromis acceptable et arriver à une séparation à l'amiable au 31 octobre.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche a dénoncé mardi l'enquête lancée par la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, dans le cadre de la procédure de destitution impeachment entamée contre le président Donald Trump, qu'elle a qualifié d'anticonstitutionnelle. La présidence américaine a indiqué qu'elle ne coopérerait pas avec l'enquête, selon elle, illégitime, menée par trois commissions de la Chambre des représentants, sauf si cette dernière organise un vote sur une éventuelle mise en accusation de Donald Trump. La Turquie se dit prête pour une opération contre une milice kurde dans le nord-est de la Syrie, tandis que le président américain assure ne pas lâcher ses alliés kurdes. Pour une analyse, Bagassi Courage, en France, Jean Marcoux, il est professeur à Grenoble, ancien directeur de l'Institut français d'Istanbul.
En réalité, les milices kurdes ont été un petit peu le bras armé des États-Unis face aux groupes djihadistes, en particulier à Daesh, l'État islamique. Parce que finalement, en 2013, lorsque ce phénomène djihadiste s'est imposé dans la crise syrienne et dans la crise irakienne, les États-Unis et leurs alliés ont déclenché une coalition internationale, mais une coalition internationale qui n'était uniquement chargée que d'intervention de frappe aérienne. Or, il fallait aussi quelqu'un pour intervenir sur le terrain, et ceux qui sont intervenus sur le terrain, ce sont ces milices kurdes syriennes. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, ils contrôlent le nord-est de la Syrie. Et donc, bien évidemment, on a l'impression que les États-Unis se sont servis des Kurdes lorsqu'ils en avaient besoin.
Et pourquoi est-ce que la Turquie veut attaquer les bases kurdes en Syrie ?
Parce que la Turquie considère, en fait, que les Kurdes syriens, qui sont rassemblés dans un parti, enfin, qui domine cette zone kurde syrienne,
La Rojava.
Le Rojava, et ce parti s'appelle le PYD, et les milices en fait kurdes s'appellent les YPG, hein, les unités de défense du peuple. La Turquie considère en fait ces Kurdes syriens comme des alliés en réalité, voire même comme la branche syrienne du PKK qui mène la rébellion sur le territoire turc.
Alors, les Kurdes, ils sont sur plusieurs territoires, dans plusieurs pays, l'Irak, l'Iran, oui. La Turquie. Pourquoi est-ce que tous ces pays n'arrivent pas à régler la question kurde et la Syrie, justement ?
Parce que, finalement, les Kurdes sont sur différents territoires et qu'il y a un petit peu une double approche du problème kurde. Il y a à la fois une identité kurde globale, mais en même temps, quand vous regardez de près, dans chaque pays, les Kurdes ont des particularités, voire des affinités.
Voilà, c'était une analyse du professeur Jean Marcoux, ancien directeur de l'Institut français d'Istanbul en Turquie. Les États-Unis ont condamné les violences en Irak qui ont fait plus de 100 morts en une semaine et exhorté le gouvernement irakien à la retenue, a indiqué mardi le département d'État américain. Ce mouvement de contestation qui a débuté le 1er octobre dénonce la corruption, le chômage et la déliquescence des services publics dans un pays en pénurie chronique d'électricité et d'eau potable. Selon un bilan officiel, plus de 100 personnes ont été tuées, en grande majorité des manifestants, et plus de 6000 blessés. Pékin a dénoncé aujourd'hui, je cite, les sinistres desseins des États-Unis à la suite des restrictions de visa annoncées par Washington à l'encontre de responsables chinois soupçonnés de participation à la répression dans la région à majorité musulmane du Xinjiang dans le nord-ouest de la Chine. L'attitude des États-Unis concernant la situation au Xinjiang ne fera qu'exposer encore davantage leur sinistre dessein au peuple chinois et à la communauté internationale, a déclaré devant la presse le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Gen Shuang. Et pour terminer, au moins 30 civils ont été tués en mai dernier dans des frappes américaines contre des supposés laboratoires de drogue des talibans dans l'ouest de l'Afghanistan, selon un rapport des Nations Unies publié aujourd'hui et aussitôt contesté par l'armée américaine. La mission de l'ONU pour l'Afghanistan, UNAMA, a vérifié 39 cas de victimes, 30 morts, 5 blessés et 4 indéterminés, dont 14 enfants et une femme dans les frappes du 5 mai. L'armée américaine, qui avait mené des opérations contre plus de 60 sites de production de drogue ce jour-là, a contesté les conclusions de l'ONU et démenti ce mercredi avoir touché des civils. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Marie-Francis. Nous sommes le mercredi 9 octobre 2019.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.